Juliette Rangeval.
Budapest is a fantastic place to study.
Come to CEU, because there is no CEU without you. CEU is us. CEU at CEU.
Et bonjour, nous allons à Budapest, où la célèbre CEU, l'Université d'Europe centrale, prépare ses bagages. L'établissement implanté depuis 1991 dans la capitale hongroise est contraint à l'exil à Vienne, en Autriche. La CEU, c'est l'université fondée par le milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros. C'est une institution spécialisée en sciences sociales et politiques. On y forme des esprits critiques, formation à l'américaine, en anglais, et on y distribue des diplômes américains. Tout cela déplaît beaucoup à l'autoritaire Premier ministre Viktor Orban. Après des mois de bras de fer, son gouvernement a forcé l'université à quitter la Hongrie. Reportage de Florence Labruyère.
Dans un amphithéâtre bondé de l'Université d'Europe centrale, le recteur Michael Ignatieff annonce la nouvelle. L'université est forcée de quitter la Hongrie pour l'Autriche.
C'est un jour sombre pour la liberté en Hongrie et pour la liberté de l'enseignement. Car à partir du 1er janvier prochain, le gouvernement hongrois nous interdit de délivrer dans ce pays des diplômes reconnus aux États-Unis. C'est une attaque contre une institution américaine, contre la liberté académique.
Pour chasser l'université du pays, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a eu une idée. Obliger l'institution à avoir un programme d'enseignement aux États-Unis, faute de quoi elle n'aurait plus l'autorisation de délivrer des diplômes américains à Budapest. CEU s'est conformée à la loi, elle a ouvert une filière d'enseignement à New York en coopération avec une université américaine. Malgré tout, le gouvernement hongrois refuse de prolonger son accréditation, ce qui indigne Eva Fodor, directrice adjointe de l'université.
L'argument du gouvernement est que nous ne respectons pas la loi car nous n'avons pas notre propre campus. Mais la loi ne parle pas de campus, elle dit simplement que nous devons avoir un programme d'enseignement agréé par les autorités américaines. Or, c'est le cas. Nous sommes reconnus par le ministère de l'Éducation de l'État de New York. Les autorités américaines l'ont confirmé plusieurs fois au gouvernement hongrois. Dire qu'on ne respecte pas la loi est un mensonge pur et simple.
L'Autriche a accepté d'accueillir l'Université d'Europe centrale. C'est à Vienne que les nouveaux étudiants s'inscriront à la rentrée de septembre 2019. Mais CEU compte maintenir des cours sur son campus de Budapest. Zsolt Enyedi, recteur adjoint de CEU.
Nous sommes très liés à Budapest. On veut y garder des activités. Et on ne veut pas abandonner nos immeubles. On ne veut pas quitter le pays. Mais évidemment, ça va demander beaucoup d'organisation.
Un double campus avec des professeurs et étudiants qui font la navette entre Vienne et Budapest. István Posfai n'y croit pas beaucoup. Comme la plupart des étudiants de CEU, il pense que l'université finira par quitter définitivement la Hongrie.
L'université donne des diplômes américains. C'est 90% de son activité. Bien sûr, j'aimerais beaucoup que CEU reste à Budapest, mais les étudiants ne viendront pas pour un diplôme hongrois. Ils iront là où ils peuvent recevoir un diplôme américain et l'université ira là où sont les étudiants.
Avec d'autres amis étudiants, István Posfai a occupé la place du Parlement pendant une semaine. Des cours, des débats ont été organisés. Une protestation symbolique contre le gouvernement de Viktor Orban, qui chasse une université du pays. CEU survivra, mais pour István, les grands perdants sont les Hongrois.
La Hongrie va perdre le lien direct qu'elle avait avec des chercheurs du monde entier qui venaient enseigner ici. Elle va perdre l'accès à des bâtiments et à des équipements fantastiques comme la bibliothèque. Et elle n'aura plus de lien avec cette communauté internationale qui animait la vie étudiante.
Étudiant à la faculté de sociologie de Budapest, Balázs Pilus a rejoint la protestation des étudiants de CEU. Selon lui, le gouvernement lance aussi une offensive contre toutes les universités hongroise.
Le gouvernement a attaqué notre université. Il a fermé le programme de master en études de genre. CEU et notre université sont les seuls à offrir ce programme. On a fait grève il y a 2 semaines. Les étudiants, les profs, on est tous inquiets de la situation.
L'affaire de l'Université d'Europe centrale a convaincu les étudiants qu'il fallait s'unir. Les étudiants de CEU et d'autres universités hongroises défileront ensemble dans la rue le 8 décembre pour protester contre une nouvelle réforme du code du travail.
La COP24 se poursuit à Katowice en Pologne. On parle beaucoup des grands pays qui ont quitté ou qui s'apprêtent à quitter l'accord de Paris signé en 2015. Mais côté européen, malgré un volontarisme affiché, il n'y a pas de raison non plus de se montrer particulièrement optimiste. Car dans plusieurs pays de l'Union, dont la France, les objectifs fixés pour 2020 ne seront même pas tenus. Pour faire le point sur ces questions, nous retrouvons Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
La maison brûle, disait Jacques Chirac sur le climat. Cette phrase, elle est toujours d'actualité, Daniel.
Absolument, Juliette. Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, publié en octobre, peut être résumé simplement. Depuis l'ère pré-industrielle, la température moyenne de la planète s'est élevée de 1 degré. Et si nous voulons contenir cette hausse à 1,5 degré à la fin du siècle, ce qui est impératif pour éviter une multiplication de catastrophes climatiques, il faut absolument atteindre un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre, GES, à l'horizon 2050.
Mais Daniel, est-ce que ce n'est pas désormais l'objectif de l'Union européenne ?
Pas tout à fait, puisque la stratégie à long terme annoncée fin novembre par la Commission vise 80 à 100% de réduction de GES en 2050. Et pour atteindre cet objectif, la Commission juge impératif d'augmenter significativement les investissements énergétiques des 27, ainsi que le budget européen consacré aux investissements de l'Union dans ce domaine, tout en renforçant les capacités du Fonds social européen ainsi que du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Cette stratégie sous-tend d'ailleurs le nouveau paquet énergie propre adopté par le Parlement européen il y a 3 semaines, un paquet qui, tout en maintenant l'objectif de réduire de 40% les émissions d'ici à 2030 par rapport à 1990, porte de 27 à 32,5% les économies d'énergie par rapport aux projections faites il y a 10 ans et de 27 à 32% la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie.
Et ces objectifs, Daniel, est-ce qu'ils sont réalistes ?
La France doit avoir réduit en 2030 ses émissions de 37% par rapport à 2005. Or, l'an dernier, à mi-parcours, donc, elle était à moins de 15%. Elle est donc loin du but. Et l'Allemagne l'est encore plus, puisque du fait de sa sortie du nucléaire, elle n'atteignait pas 8% de baisse des émissions en 2017. Les Pays-Bas ont eux aussi d'immenses efforts à faire. En revanche, les pays scandinaves sont très en avance, tandis que l'Espagne et l'Italie ne devraient pas avoir de problème pour atteindre leurs objectifs.
Est-ce que c'est la même chose en matière d'efficacité énergétique ?
Oui, à peu de choses près. Si l'on se réfère cette fois aux objectifs fixés pour 2020 en matière de baisse de la consommation d'énergie primaire, Suède et Danemark les ont déjà atteints, de même que l'Italie et l'Espagne. C'est moins évident pour l'Allemagne, qui a un long chemin à accomplir en peu de temps, avec une population qui s'accroît du fait de l'immigration, et c'est encore plus difficile pour la France au vu des projections pour les 3 prochaines années.
La France, est-ce qu'elle se rattrape sur les énergies renouvelables ?
Non, car elle tirait des renouvelables moins de 16% de sa consommation d'énergie en 2017, alors que le pays s'est engagé sur 23% dès 2020. N'est-il pas utopique d'espérer dès lors 32% en 2030 ? L'Allemagne est mieux lotie, mais son engagement de 18% de renouvelables pour 2020 n'est pas réalisable à coup sûr avec un taux d'environ 15% en 2017. En revanche, les Pays-Bas n'atteindront certainement pas leur objectif en 2020. Parmi les bons élèves de l'énergie renouvelable, citons l'Italie et la Scandinavie, avec en particulier la Suède, où les renouvelables représentent déjà 54% de la consommation d'énergie du pays.
Si je vous comprends bien, en résumé, les 2 premiers pays européens sont en retard.
Indéniablement, l'Allemagne continue toujours de digérer sa sortie programmée du nucléaire et le recours compensatoire aux énergies carbonées. Elle est donc à la peine en termes d'émissions de CO2, cependant que le récent afflux d'immigrés contrecarre ses efforts d'économie d'énergie. Quant à la France, elle a souffert récemment de la baisse de sa production hydraulique du fait de la sécheresse, ce qui pèse sur ses performances en matière de renouvelables. Cela dit, malgré le retard de ces 2 leaders, l'Union européenne dans son ensemble reste globalement bien engagée dans la transition grâce aux excellentes performances de l'Europe du Nord, des efforts de l'Europe du Sud et de la spectaculaire baisse des émissions en Europe centrale, ainsi que du rapide progrès de plusieurs pays de l'Est, notamment les pays baltes, en matière d'énergie renouvelable.
La transition énergétique, est-ce qu'elle est acceptée socialement par la population ?
Un sujet d'actualité, en effet, quand on voit la colère des gilets jaunes par rapport aux taxes sur les carburants. La France a effectivement un retard à combler et la fiscalité écologique est un bon instrument de modification des comportements. Cela dit, l'Hexagone pâtit du fait qu'il a choisi bien tardivement le combat environnemental. Du coup, sa fiscalité écologique a été assez brutalement alourdie. Les taxes sur l'énergie s'étant accrues de 37% de 2010 à 2016, contre 17% en moyenne dans l'UE et seulement 4% en Allemagne. Visiblement, le virage est trop brutal pour les populations à revenus modestes.
Merci Daniel, à la semaine prochaine.
À bientôt Juliette.
La Serbie menace d'intervenir si le Kosovo se dote d'une armée régulière. À Pristina, le Parlement kosovar doit se pencher sur la question d'une force militaire le 14 décembre prochain. Des signes de tension, alors que dans le même temps, en secret, Serbie et Kosovo négocient depuis l'été un échange de territoires pour établir une paix durable. Les chefs d'État kosovars et serbes préparent activement leurs opinions publiques avec le soutien de nombreuses chancelleries internationales. Pour faire la paix entre Kosovo et la Serbie, suffit-il de corriger les frontières ? Un reportage de Simon Rico.
Bâti au XIVe siècle, le célèbre monastère orthodoxe de Dečani se dresse au milieu des montagnes maudites dans l'ouest du Kosovo, non loin de l'Albanie et du Monténégro. En 700 ans, ce joyau architectural serbe, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, a résisté à l'occupation de l'Empire ottoman et aux guerres qui ont ravagé la région tout au long du XXe siècle. Depuis cet été, c'est devenu le bastion de la résistance au projet de découpage ethnique du Kosovo et de la Serbie, avec à sa tête le père Sava, le supérieur du monastère.
L'église orthodoxe serbe a déjà exprimé deux fois cette année, notamment lors du Conseil des évêques, ses inquiétudes les plus sérieuses sur ces négociations sur le Kosovo, parce qu'elles vont entraîner une partition ethnique et territoriale qui aura de terribles conséquences pour nos fidèles et nos sites sacrés au Kosovo. Nous appelons à la poursuite du dialogue, mais nous sommes contre la création de territoires ethniques et religieux homogènes. Cela signifierait la fin de nos fidèles dans la plupart des régions du Kosovo.
Comme les quelques 70 000 Serbes qui habitent les enclaves du Kosovo, le père Sava est inquiet. Ces terres, non contiguës à la Serbie, abritent toujours les deux tiers de la petite minorité qui a choisi de rester au Kosovo après la fin de la guerre de 1999. Rada Trajković est une pionnière du dialogue serbo-albanais, aujourd'hui mise sur la touche par le nouveau pouvoir à Belgrade à cause de son indépendance. Ancienne députée de l'enclave de Gračanica, proche de la capitale Pristina, elle envisage sérieusement la disparition des Serbes du Kosovo.
On constatait une réelle normalisation qui avait commencé il y a 20 ans déjà. Les Serbes et les Albanais se fréquentaient. Ils avaient recommencé à travailler ensemble. Mais voilà qu'arrivent à nouveau des messages indiquant que bientôt il n'y aura plus de Serbes ici et que notre État se désintéresse de nous. Cela plonge les gens dans la panique.
Tandis que les négociations se poursuivent dans l'ombre entre les présidents serbes et kosovars, de nombreuses chancelleries ont apporté leur soutien à la correction des frontières. Que ce soit les États-Unis, l'Autriche, qui préside en ce moment l'Union européenne, ou la France, tout le monde, Allemagne exceptée, semble penser qu'il s'agit de la bonne solution pour faire enfin la paix. Pourtant, ce projet divise l'exécutif kosovar. Le premier ministre Ramush Haradinaj s'y oppose fermement. Halil Matoshi, son conseiller diplomatique, pointe le jeu trouble des internationaux.
Personne ne sait à Belgrade comme à Pristina ce que signifie vraiment cet accord final. Est-ce que cela suppose une reconnaissance réciproque? Ni le président Tači, ni le président Vučić n'ont inventé cette idée. Nous pensons que cette initiative vient des Russes, qui reviennent en force en Europe centrale et dans les Balkans.
Pour le chef du gouvernement kosovar, tout échange de territoire mènerait immanquablement à la guerre, une perspective qui inquiète toujours les Balkans, deux décennies après que les armes se sont tues. Pour beaucoup, redéfinir les frontières sur une base ethnique reviendrait surtout à ouvrir la boîte de Pandore, comme le rappelle l'analyste Belgzim Kamberi.
Il y aura toujours une minorité qui restera minoritaire quelque part, parce que les populations sont tellement mélangées, comme partout, que même dans de tels accords, il y aura toujours une minorité quelque part. C'est un peu l'échec de la communauté internationale qui n'a pas réussi donc à créer cette société où les gens verraient une égalité et pourraient essayer de voir un avenir ensemble.
Comme tous les matins, le marché de Kamenica bat son plein. Dans les allées, on entend parler le serbe et l'albanais, un bilinguisme devenu exceptionnel depuis la fin de la guerre. À l'époque yougoslave, ce bourg de l'est du Kosovo était l'un des principaux centres industriels de la province. Serbes et albanais se côtoyaient à l'usine et dans les immeubles édifiés par le régime socialiste pour les loger. Aujourd'hui dirigée par la gauche souverainiste, la ville veut montrer que le multiculturalisme a de l'avenir au Kosovo. Son nouveau projet, ouvrir la première école mixte du pays, comme l'explique Donietta Demoli, la porte-parole de la mairie.
C'est un gros projet. Nous voulons rassembler les écoles où étudient les enfants de toutes les communautés. Les élèves albanais, roms et serbes pourront donc être tous ensemble. Ça peut sembler surprenant, mais l'administration de l'école est d'accord, tout comme les parents des enfants. Ils veulent bien sûr que les élèves puissent étudier dans leur langue, mais nous voulons organiser des cours mélangés, les cours de sport et de musique, par exemple.
Kamenica n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de la Serbie, ou plus exactement de la vallée de Preševo, une région à majorité albanaise. Ici, la question de la correction des frontières est aussi sur toutes les lèvres, alors que l'on évoque depuis longtemps son possible échange contre le nord du Kosovo, peuplé presque exclusivement de Serbes. Stojanča Arsic est le maire adjoint de Bujanovac, la grande commune mixte albano-serbe de la zone.
Personne ne sait ce que veut dire le mot « correction des frontières ». Est-ce qu'il s'agit d'une simple modification, d'un échange de territoire ? Personne n'en sait rien. Mais je crois que c'est fait exprès pour inquiéter l'opinion publique, aussi bien les Albanais que les Serbes. Ce n'est pas possible de faire des frontières ethniques, cela n'existe nulle part dans le monde.
10 ans après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, la question d'un accord final entre Belgrade et Pristina basé sur une inquiétante correction des frontières se retrouve au premier plan. Que ce soit les présidents serbes et kosovars, Washington, Moscou ou Bruxelles, tous pensent que cette solution servira leurs intérêts à court terme, quitte à réveiller les vieux démons du passé. Pendant ce temps, dans la vallée de Preševo à majorité albanaise ou dans les enclaves serbes du Kosovo, certains commencent déjà à préparer leurs valises.
You're Vincent.
Yes, sales brother.
I'm Paul Gauguin.
We have to start a revolution, do you understand?
We have to create a new vision, a new way of painting.
I spent all my life alone in a room.
Un air de famille chez les Van Gogh, l'une des deux seules photographies connues de Vincent Van Gogh n'est pas un cliché représentant l'artiste néerlandais, mais son frère. C'est à cette conclusion que vient de parvenir le musée Van Gogh d'Amsterdam après une longue enquête, Antoine Moutou.
Un jeune garçon, les cheveux ondulés, le regard perçant et le sourire fermé. Depuis des dizaines d'années, tout le monde pensait que cette photographie datant de la seconde moitié du 19e siècle représentait le peintre mondialement connu Vincent Van Gogh. On lui donnait alors 13 ans. Mais c'était sans compter sur le regard aiguisé de certains connaisseurs et sur une récente enquête approfondie du musée Van Gogh d'Amsterdam. Selon les résultats de l'étude, il ne s'agit pas de Vincent à 13 ans, mais de son frère Théo, alors âgé de 15 ans. Le cliché daterait en fait de 1872. Les doutes sur la véritable identité du garçon de la photo sont nés en 2014 au cours de Photo Studio de Young, une émission de télévision de la chaîne publique VPRO. À l'aide de technologies expérimentales, l'équipe de l'émission décide de comparer le portrait avec la seule autre photo connue de Vincent Van Gogh lorsqu'il avait 19 ans. À la grande surprise du monde de la photographie aux Pays-Bas, ce test semble alors révéler que malgré une forte ressemblance, les deux visages ne correspondent pas. Dans la foulée, le musée Van Gogh mène une première étude pour vérifier les résultats de la télévision publique, sauf que voilà, dans un premier temps, le musée conclut qu'il s'agit bel et bien de Vincent. Il faut attendre quelques mois de plus pour qu'un Belge, Yves Vasseur, commissaire général de Mons, capitale européenne de la culture 2015, émette de nouveau des doutes sur l'identité du garçon sur la photo, ce qui conduit le musée Van Gogh à ouvrir une seconde enquête. Avec des résultats qui ont beaucoup surpris, Willem Van Gogh, arrière-petit-neveu de Vincent, très heureux d'apprendre que le mystère est enfin résolu et qu'il ne s'agit donc pas de son arrière-grand-oncle, mais de son arrière-grand-père. Concrètement, cela veut dire qu'il n'existe qu'une seule photo connue de Vincent Van Gogh, qui, selon le musée d'Amsterdam, n'aimait pas tellement les portraits photos.
Accent d'Europe avec à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous retrouvez, vous nous réécoutez aussi sur internet dans l'onglet émission du site rfi.fr ou alors sur les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, on se retrouve ici demain à la même heure.